Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, il est 8h.
Là, je commence à en avoir marre. J'ai peur pour mon véhicule. Ça devient fatigant et quand on commence à être fatigué, eh ben, on s'en va, quoi.
L'exécutif mis en cause sur la sécurité. Des violences ce week-end à Fréjus, où nous rejoignons l'envoyé spécial d'Europe 1 dans un instant, mais aussi près de Lyon et dans la Drôme. À chaque fois, les forces de l'ordre étaient directement visées. Dans ce contexte, la guerre civile couve. Voilà ce qu'on lit dans une nouvelle tribune publiée par Valeurs Actuelles. Les auteurs, anonymes, se disent militaires d'active. Ils alertent contre le communautarisme, la haine de la France et l'effondrement qui menace, disent-ils. Nous verrons comment réagit l'Elysée. Et puis, Wall Street, la City, Francfort, la Défense, que deviennent les quartiers d'affaires, leurs gratte-ciel et leurs millions de mètres carrés vidés par le télétravail? Alors que l'après-Covid se dessine, nous verrons comment, d'un pays à l'autre, les choix varient radicalement. C'est le dossier d'Europe 1. À 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est donc l'information de cette nuit, des suspects interpellés dans le meurtre du policier Éric Masson, des interpellations et beaucoup d'émotions et de colère en amont. Alors quel sursaut? Mon invité à 8h15, le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, Thibaut de Montbrial.
On vous retrouve à 8h15, juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Est-ce un avertissement? L'affirmation d'un territoire face à la police? Est-ce parfois un jeu inconscient? Comment qualifier les tirs de feux d'artifice visant directement des policiers à Romans-sur-Isère? Comment comprendre qu'une voiture fonce volontairement vers un pompier à Villefranche? Tout cela en l'espace d'un week-end, sans parler de Fréjus. Dans la nuit de samedi à dimanche, 40 ou 50 personnes qui crient « Tuez-les !» brûlent 3 voitures, vandalisent une dizaine de magasins dans le quartier de la Gabelle.
Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour.
Envoyé spécial d'Europe 1 à Fréjus. Comment se sont passées la soirée et la nuit qui viennent de s'écouler déjà?
Écoutez, la nuit a été calme, hein, mais ce matin, quelques traces de cette émeute nocturne sont encore visibles. Samedi soir, les incidents ont débuté à Fréjus, avant de se poursuivre dans cette rue commerçante de Saint-Raphaël, où je me trouve ce matin. On est seulement à quelques centaines de mètres de la cité de la Gabelle. Là, les vitres d'une pharmacie ont été brisées, un magasin de moto entièrement saccagé. Au total, une dizaine de commerces a été vandalisé. Par endroits aussi, le sol est noirci, brûlé. On devine que c'est là que les véhicules ont été incendiés. Une voiture de la police municipale de Fréjus et deux véhicules de particuliers. Dominique habite en face de la Gabelle et s'attend à d'autres soirées agitées.
Il y a 15 jours, on a eu des incidents pareils avec les flics, la BAC, les boucliers. Ça va devenir un jeu en fait, c'est marrant, ça les occupe. Pour eux, c'est représenter quelque chose, c'est montrer qu'ils sont forts, montrer qu'ils sont puissants. Il n'y a pas de message, il n'y en a pas, c'est juste des gens qui ont envie de faire du mal, qui ont envie de casser. Je commence à me poser la question, est-ce que je vais pas vendre et aller à Port-Fréjus par exemple, parce que là, je commence à en avoir marre. J'ai peur pour mon véhicule, ça devient fatigant et quand on commence à être fatigué, eh ben, on s'en va quoi, si on a les moyens.
Alors dès hier, comme le réclamait depuis plusieurs semaines le maire Rassemblement National de Fréjus, David Rachlin, une compagnie de CRS, 70 policiers sont arrivés en renfort. Le maire de Saint-Raphaël s'en est félicité, mais ce matin, les habitants que j'ai rencontrés me disaient attendre plus d'autorité et plus de sévérité.
Merci Frédéric Michel, avec vous Europe 1 est en direct de Fréjus ce matin.
Preuve de la tension du moment, cette série de violences du week-end n'avait même pas encore eu lieu que le Premier ministre Jean Castex avait un rendez-vous à son agenda avec les syndicats de policiers. Il a lieu ce soir. Il a été décidé après le meurtre d'un policier à Avignon mercredi dernier. Deux suspects ont été arrêtés hier soir à une vingtaine de kilomètres de la ville. L'un d'entre eux pourrait être le tireur. Dans ce contexte, les mots que l'on découvre dans une nouvelle tribune publiée hier soir par Valeurs Actuelles ont une résonance particulière. Deux semaines après le texte des officiers retraités contre les hordes de banlieue, disait-il, voilà que d'autres signataires dénoncent les accommodements avec la délinquance et craignent une insurrection civile.
Bonjour Louis Dragnel.
Bonjour.
On ne sait pas combien ils sont, on ne connaît pas leur nom, mais leurs mots sont très durs contre Emmanuel Macron et les états-majors.
Oui, en fait, en ce qui concerne le fond, on retient deux axes. D'abord, apporter un soutien total aux généraux à la retraite qui avaient signé la première tribune. L'exécutif avait alors décidé de sanctionner tous les généraux signataires. Donc la réaction est très claire dans la nouvelle tribune. Ces gens qui ont lutté contre tous les ennemis de la France, vous les avez traités de factieux alors que leur seul tort est d'aimer leur pays et de pleurer sa visible déchéance. Deuxième axe du texte, le même constat très explicite sur l'état du pays. Nous voyons la violence dans nos villes et villages. Nous voyons le communautarisme s'installer dans l'espace public, dans le débat public. Et de conclure, oui, si une guerre civile éclate, l'armée maintiendra l'ordre sur son propre sol parce qu'on le lui demandera.
Alors ce qui est très marquant, Louis, tout de même, c'est que cette fois, ce ne sont pas des retraités qui s'expriment.
Exactement, ce sont des militaires d'actifs, c'est-à-dire en fonction, des militaires en théorie soumis au devoir de réserve. C'est ça qui donne au texte son caractère explosif. Parce que des militaires d'actifs qui défient ainsi le président de la République, c'est du jamais vu.
Alors, en tout cas, ces deux tribunes, coup sur coup, ont été suivies et analysées de très près. C'est ce que vous nous dites au sein du pouvoir.
Eh bien, je suis en mesure de vous dire que la DRSD, le service de renseignement interne des armées, a travaillé nuit et jour depuis le début de la semaine dernière pour essayer d'identifier les auteurs du texte, mais sans succès. On a quand même parlé de peut-être 2000 signataires. Finalement, Valeurs Actuelles ne le précise pas. Désormais, c'est à lui, Emmanuel Macron, de décider s'il sanctionne les signataires au risque de provoquer une crise politique ou s'il décide de passer l'éponge.
Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1.
La politique encore avec ce projet de loi climat et résilience examiné par les sénateurs aujourd'hui et demain. En commission, le texte a été modifié par rapport à la version votée par les députés, ce qui bloque pour le moment toute possibilité de référendum sur l'inscription de la Constitution de la lutte pour protéger le climat.
8h06 sur Europe 1, un nouvel exemple du retour progressif à la normale aux États-Unis. À partir de ce matin, Wall Street assouplit son protocole sanitaire. La célébrissime bourse de New York retrouve peu à peu ses traders.
Bonjour Jean-Sébastien Soldaini.
Bonjour.
C'est notre dossier ce matin. Wall Street, c'est un symbole bien sûr. On va voir avec vous dans quelques instants comment cela se passe pour les autres grands quartiers d'affaires. La bourse américaine avait fermé pendant 8 semaines au printemps dernier. Depuis mai 2020, le télétravail était la règle. Mais aujourd'hui, Jay Woods, qui est chef de la stratégie dans une société de courtage, se réjouit de voir ses équipes dans cette mythique salle des marchés de Wall Street.
C'est un pas de plus dans la bonne direction vers un retour à la normale. On a davantage de liberté pour accueillir plus d'employés sur place. Il faudra toujours respecter la distanciation sociale, mais ça va se rapprocher de ce que c'était avant. On a fermé parce que c'était le cœur de la crise et maintenant on est de retour, on veut montrer au reste du monde financier, au reste du monde des affaires qu'il est temps de revenir, c'est bon.
Alors reprise timide mais reprise quand même à Wall Street, on va voir en détail comment ça se passe en Europe.
Jean-Sébastien Soldaini, ce qui est frappant c'est qu'entre Londres, Paris, Francfort, les situations sont très différentes.
C'est ça, prenez Francfort, la grande place boursière allemande, c'est tout l'inverse de Wall Street, le télétravail n'y a jamais été la règle et deux tiers des entreprises ont déjà annoncé qu'elles ne demanderaient pas à leurs salariés de télétravailler. Alors qu'à Londres, la City, les immeubles de bureaux sonnent creux, à moitié vides selon certains traders. Pour le retour in person, comme disent les Anglais, aucune échéance fixée. Alors certains espaces de travail vont devenir des logements ou seront loués à des start-up.
Donc des logements à la place de bureaux. Alors comment ça se passe à Paris ou plutôt à la Défense? Qu'est-ce qui se dessine?
Eh bien là, il y a déjà des signes de reprise. 20 à 30% des salariés seraient de retour en présentiel. Les entreprises augmentent progressivement leur jauge. Le volume des ventes de bureaux est dans la moyenne des 10 dernières années et vous l'entendez, Total construit une nouvelle tour. À la Société Générale, c'est une autre stratégie. Si le télétravail progresse, ça ne veut pas dire présence réduite sur le site de la Défense. Au contraire, Caroline Guillemin, DRH du groupe, compte bien y regrouper une grande partie de ses salariés.
En fait, on avait des locaux ailleurs et on va faire venir des gens à la Défense. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça reste un endroit quand même dans lequel c'est vraiment un quartier des affaires. Donc, même quand on reçoit des clients, en fait, c'est un endroit qui est quand même très central. C'est un espace qui est très grand.
Donc Jean-Sébastien, pas de disparition de bureaux à la Défense comme à Londres?
A priori non, mais il semble y avoir une volonté de tout repenser, moduler les espaces en quelque sorte. C'est en tout cas comme cela que Pierre-Yves Guis, directeur général de Paris La Défense, imagine les mois à venir.
Ils vont devoir muter dans leur configuration architecturale, dans les conditions de travail qu'ils permettent. Et ce qu'on commence à entendre, c'est qu'on évoluera durablement vers un fonctionnement hybride, des bureaux qui ne disparaîtront pas, mais dont l'utilité évoluera vers un rôle de sociabilisation, de création de valeur ajoutée entre les équipes de travail.
Alors c'est assez étonnant finalement ce qu'on entend Jean-Sébastien. Pourquoi est-ce que Paris résiste mieux que Londres?
Eh bien nous avons tendance à l'occulter, mais la Défense, au contraire de la City, ce ne sont pas uniquement des bureaux, plus de lieux de vie, de logements, des centres commerciaux, des restaurants, des pistes cyclables, avec encore des projets de ce type dans les cartes. C'est ce qui permettrait de mieux rebondir.
La modularité, vous l'avez compris, c'est l'avenir tout simplement de ces grands quartiers, ces colosses, non pas au pied d'argile, mais qui sont obligés de se réinventer. C'est le dossier d'Europe 1 ce matin, dossier signé Jean-Sébastien Soldaini avec Théo Manval et Alexis Guilleux.
Et avec vous, Jean-Sébastien, on entend bien que François Geffrier rêve d'un déjeuner à la Défense.
On l'invite
finalement dans ses espaces de vie. Merci beaucoup. Merci. 8h10 sur Europe 1. C'est un homme très affaibli que l'on a entendu ces derniers mois dans les médias au sujet de l'Olympique de Marseille, par exemple. Bernard Tapie, de retour devant la justice après 6 mois d'interruption de son procès en raison de sa santé.
Oui, procès en appel dans l'affaire de l'arbitrage qui lui avait rapporté 403 millions d'euros en 2008 avant d'être annulé. Bernard Tapie jugé pour escroquerie. Chloé Triomphe, l'ancien homme d'affaires sera bien présent tout à l'heure.
Oui, malgré la violente agression que Bernard Tapie a subie il y a quelques semaines avec son épouse lors d'un cambriolage en pleine nuit à leur domicile, l'homme d'affaires fera tout pour être présent à ce rendez-vous judiciaire. À 78 ans, Bernard Tapie, très secoué par cette agression et toujours en plein combat contre son double cancer, a prévu d'assister sans doute pas à toutes les audiences, mais aux plus importantes, car l'enjeu est toujours aussi crucial. Lors de son premier procès, il avait été blanchi par la justice, mais en appel, c'est tout le match qu'on rejoue. À l'automne dernier, ce procès en appel avait été interrompu en raison de son état de santé. Et le procès va donc reprendre là où les débats s'étaient arrêtés. Sur le banc des prévenus, l'un des artisans de cet arbitrage ne sera pas présent non plus. Pierre Estoupe n'avait déjà pas comparu lors du premier procès pour des raisons de santé. En revanche, Stéphane Richard, actuel PDG d'Orange et ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde au ministère de l'Économie, sera bien là. Il a toujours affirmé n'avoir donné aucune consigne en faveur de cet arbitrage qui faisait à l'époque, dit-il, l'objet d'un large consensus pour mettre fin à une interminable bagarre judiciaire.
Merci Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
L'actualité des livres est aussi sur Europe 1. Et on appelle ça un fond de tiroir ou alors un trésor oublié. C'est plus élégant, c'est selon. Des manuscrits pas tout récents que l'on redécouvre.
Oui, imaginez des écrivains qui sont connus, qui sont confirmés. Ils retrouvent leur tout premier texte, comme Pierre Lemaitre ou Tatiana de Ronay. Ils publient cette semaine ces manuscrits qui n'avaient jamais été édités. Nicolas Caro.
Le serpent majuscule, c'est le nouveau Pierre Lemaitre qui sort mercredi chez Albin Michel, nouveau avec beaucoup de guillemets puisqu'il s'agit en fait de son plus vieux, un roman de jeunesse jamais publié, son premier roman noir. Idem pour Tatiana de Ronay qui publie Célestine du Bac chez Robert Laffont, un vieux manuscrit retrouvé par l'écrivaine en rangeant sa cave.
Je tombe sur un carton où il y a écrit « Ne pas publier si je meurs ». Et en fait, c'est un carton où j'ai rangé tous les manuscrits que j'ai pu écrire entre l'âge de 10 et 30 ans. Et là, je vois un manuscrit papier qui me tend les bras, Célestine du Bac. Je le lis, je le trouve très sincère et je me dis, bon, je vais le donner à mes éditeurs parce que je n'arrive pas à juger et c'est eux qui vont juger.
Écrit entre 90 et 93, le roman raconte l'histoire de Martin, 18 ans, un peu paumé, qui se lie d'amitié grâce à la littérature avec Célestine du Bac, une vieille clocharde de la rue du Bac à Paris. L'écriture, le style ne ressemble pas tout à fait à Tatiana de Ronay, c'est une autre écrivaine que l'on découvre.
Nicolas Caro qui nous montre qu'on peut toujours trouver des choses un petit peu précieuses, magiques dans les greniers. Je ne sais pas si c'est votre cas, Mathieu, vous avez sans doute des œuvres musicales peut-être à vous.
Il va falloir fouiller. Non, il va falloir fouiller. Oui, des archives ou des œuvres musicales, vous savez. Vous avez encore un lecteur cassette, vous, François?
Oui, Walkman.
Parce qu'il faut que je mette la main là-dessus pour explorer ces trésors oubliés, comme vous disiez, de façon si élégante. Merci beaucoup, François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1, il est 8h13.